l'écoute de notre chaîne Bonne Fin de Week-end.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Théâtre et Compagnie avec une soirée consacrée à Marguerite Duras, Les yeux verts, suivie des évidences nocturnes. Cécile Baquès a choisi les textes qui composent Les yeux verts que nous allons entendre dans un instant. Ils sont interprétés par Cécile Baquès, Michael Lonsdale et Axel Boguslavski. Les extraits de Marguerite Duras sont issus du coffret INA Radio France intitulé « Le ravissement de la parole » conçu par Jean-Marc Turine. Les yeux verts a été enregistré en public dans le cadre du festival Nîmes Culture en juillet 2005 dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy.
En 1980, Serge Danet propose à Marguerite Duras de concevoir un numéro spécial pour les Cahiers du cinéma. C'est une période particulière de la vie de l'auteur. Elle n'écrit plus, ou peu, du journalisme subjectif. Elle préfère se consacrer au cinéma. Mais le manque de l'écriture se fait sentir et lui fait éprouver un désarroi sensible à la lecture de ce numéro qu'elle intitule « Les yeux verts ». Désarroi devant l'état du monde, qui l'amène à des pages sur la solitude, sur l'homme fait avec de la peur ou sur la perte politique. Seule, dans sa maison de Naufle-le-Château, Duras s'acharne. Elle rédige une lettre, jamais envoyée, qui exprime son désir d'écrire à nouveau. Le numéro entier évoque sa renaissance à l'écriture et laisse apparaître la figure d'Aurélia Steiner, la petite fille juive née à Auschwitz. Une figure essentielle de l'œuvre qui, dans les années 80, va engendrer d'autres récits et d'autres personnages. Nous nous proposons de suivre le double fil de Marguerite Duras, son regard extérieur sur le monde et sa fiction intérieure. Le parcours sera jalonné de passages d'autres fictions contenant le motif d'Aurélia Steiner et l'obsession de l'écrivain pour l'histoire du peuple juif. L'Olwe Stein, sa sœur, son ancêtre, la reine de Samarie de Roma, autrement dit Bérénice, la jeune fille de l'été 80, la monitrice qui raconte aux enfants l'histoire de David et du requin qui l'emmène sur une île.
J'ai cru pouvoir écrire avant. On vous l'a dit?
Oui, mais je l'aurais sans doute deviné. À la façon que vous avez de vous taire.
J'ai abandonné. Monsieur Strater écrivait aussi?
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis...
Vous?
Je n'ai jamais essayé.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, oui, si vous voulez.
Festival Nîmes Culture, Les yeux verts, de Marguerite Duras. Enregistré en public à l'hôtel Meynier de Salinelles. Texte réuni par Cécile Baquès. Réalisation Christine Bernard-Sugy.
Le premier mouvement brutal dans l'écriture, il est complètement... Oh, il n'est pas du tout distancié, enfin, il est abrupt. Comme si une crise s'abattait sur moi et je me débats comme je peux.
Les yeux verts. Cécile Baquès, Axel Boguslavski, Michael Lonsdale.
Il y a ça dans le livre. La solitude y est celle du monde entier. Elle est partout, Elle a tout envahi. Je crois toujours à cet envahissement. Comme tout le monde. La solitude, c'est ce sans quoi on ne fait rien. Ce sans quoi on ne regarde plus rien. C'est une façon de penser, de raisonner, mais avec la seule pensée quotidienne. Il y a ça aussi dans la fonction d'écrire. Et avant tout, peut-être, se dire qu'il ne faut pas se tuer tous les jours, du moment que tous les jours on peut se tuer. C'est ça, l'écriture du livre. Ça n'est pas la solitude. Je parle de la solitude, mais je n'étais pas seule, puisque j'avais ce travail à mener à bien jusqu'à la clarté. Ce travail de forçat. Écrire le vice-consul de France à Lahore. Et il a été fait et traduit dans les langues du monde entier, et il a été gardé. Et dans ce livre, le vice-consul tire sur la lèpre, sur les lépreux, les misérables, sur les chiens, et puis il tire sur les blancs, les gouverneurs blancs. Il tuait tout, sauf elle. Celle qui, au matin d'un certain jour, s'est noyée dans le delta. Lola Valérie Stein. Cette reine de mon enfance et de Estala. Cette femme du gouverneur de Vinlong.
Qu'avait-elle fait à ces heures-là pendant les 10 années qui avaient précédé? Je le lui ai demandé. Elle n'a pas su bien me dire quoi. À ces mêmes heures, ne s'occupait-elle à rien à Uxbridge? Rien. Mais encore, elle ne savait dire comment, rien. Derrière les vitres, peut-être aussi, oui. Mais aussi, ce que je crois, du penser, un fourmillement, tout également frappé de stérilité une fois la promenade terminée, aucune de ses pensées jamais n'a passé la porte de sa maison, viennent à Lolvestein pendant qu'elle marche. On dirait que c'est le déplacement machinal de son corps qui les fait se lever toutes ensemble dans un mouvement désordonné, confus, généreux. Lol les reçoit avec plaisir et dans un égal étonnement. De l'air s'engouffre dans sa maison, la dérange, elle en est chassée, les pensées arrivent. Pensées naissantes et renaissantes, quotidiennes, toujours les mêmes qui viennent dans la bousculade, prennent vie et respirent dans un univers disponible aux confins vides, et dont une seule, arrive avec le temps, à la fin, à se lire et à se voir, un peu mieux que les autres, à presser LOL un peu plus que les autres, de la retenir enfin.
Anne-Marie Sater et Lolvestein, je n'ai rien à voir avec elles. Rien. Ce sont des personnes qui ont leur vie, qui n'améliorent en rien la mienne, qui ne me font jamais rêver. Je ne rêve jamais à elles. Je tombe dans l'endroit où elles sont et je commence à écrire. Cet endroit est derrière moi, quelque part, mais il ne m'aide jamais à vivre. C'est mon enfer à moi. Ce lieu qu'on transporte, ce lieu noir, enfin, n'aide rien. C'est des mots terribles. Je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il faut être tellement prudent à cet endroit du langage. Mais peut-être que je ne suis pas un écrivain. Parce que c'est trop traumatique, c'est trop terrible. Ce que je fais quand je fais l'écrivain.
Viens, viens que nous allions ensemble pendant cet après-midi de printemps. Viens qu'on aille à travers la ville, qu'on parle de tout. C'est le bonheur de vie, qu'on regarde le mouvement, la ville à travers les vitres, la lumière jaune, qu'on aille toujours, qu'on reste toujours là et là encore, à regarder derrière les vitres la ville, la lumière jaune répandue, qu'on parle de partir, de rester, d'écrire, de se tuer. Tu vois, viens pour rien, pour entendre le bruit des langues étrangères, les cris, le vacarme, le fleuve, la douceur qu'on parle. Regarde ces charognes qui planent au-dessus des vallées. Regarde à la recherche de leur proie les guerres, tu sais, les camps, oui. Écoute, les trains roulent à travers l'Europe. De la faim, on dit, et des morts encore, oui, tu le sais, oui. Tout est pareil et rien. Non, rien, puisque là nous sommes. Nous, oui. Écoute. Écoute ce vide qui arrive. Nouveau, l'aventure nouvelle. Restons ensemble jusqu'au soir. Regardons nos ombres longues sur les trottoirs. Restons ensemble jusqu'à la lumière oblique. Le soir, regardons venir la nuit. L'autre versant de la vie, ce retournement, à peine on le voit, à peine on le sent, ce glissement, cette charnière facile. Et puis voici, les voici venir, les génies du noir, apafeutrés, ils viennent. Écoute, tu sais, les moissons nouvelles, celles des non-travailleurs, ceux qui ne feront plus le travail, ne souffriront pas, trouveront leur convenance dans le loisir illimité de la vie. Regarde, écoute, ce temps étrange. Il vient, long, il est long, lent, il n'y a plus de travail, il n'y aura plus de travail. Les longs chômages de la fin du XXe siècle, tu as entendu dire, ont commencé, vont rester là, devenir séculaires. Disons la même chose de l'été. L'été commence, disons-le, comme ça. L'été commence, les longues journées de l'été. Elles sont lentes et profondes, en resteront là pour l'éternité. Viens, la multiplication des emplois a cessé. La multiplication de la peine aussi. Ce n'est plus la peine aussi. Ne mente plus, plus de travail, plus de travailleurs. Viens qu'on parle encore de tout. C'est le bonheur de la vie de cette ville océane. C'est de là qu'elle sortira des eaux, de ce fleuve. Elle est celle de l'autre versant. Écoute, regarde-la, elle vient. Elle est celle qui vient, elle, la perte du monde. Regarde, la voici, tu la reconnais, elle est notre sœur, notre jumelle. Elle vient, salut, on lui sourit, si jeune elle est, si belle, habillée de peau blanche, les yeux verts.
Loll W. Stein, folle, arrêtée à ce bal de Estala, elle reste là. C'est le bal qui grandit, il fait des cercles concentriques autour d'elle, de plus en plus larges. Maintenant, ce bal, les bruits de ce bal sont arrivés à New York. Maintenant, Loll W. Stein, elle est en tête des personnages de mes livres. C'est curieux quand même. C'est elle qui se vend le mieux. Ma petite folle.
J'ai environ entre 15 et 40 000 spectateurs. Ce chiffre est celui de mon roman « Le ravissement de l'Olvestein » en collection blanche. C'est beaucoup. Le livre de poche du même titre doit être à 60 000, mais le nombre des lecteurs doit être le même, 30 à 40 000. Beaucoup gardent le livre et n'arrivent pas à le lire, ne font pas l'effort d'avancer dedans comme pour le cinéma. Je dis que c'est un chiffre important. Je dis que ce sont des chiffres importants, et pour un livre, de même que pour un film, il faut l'admettre. Les cinéastes professionnels comptent les spectateurs en termes de kilogrammes. J'ai le sentiment que les jeunes cinéastes ne se consolent pas de ne pas dépasser ce chiffre de 30 000 personnes. On a peur qu'ils en soient à faire de telle sorte qu'ils arrivent au chiffre de 300 000 spectateurs, de rejoindre ce chiffre-là, celui qui perd, qui les perdrait. Qu'ils s'y noient ensemble, eux, les cinéastes, et eux, ces spectateurs premiers. Nous sommes séparés. Que voudraient dire les gagnés à nous ? Rien. Les gagnés à rien, puisque ce que l'on ferait alors ne rimerait plus à rien quant à nous. Dans quels termes s'adresser à eux ? On ne connaît pas leur langage et ils ne connaissent pas le nôtre. Cette différence entre eux et nous rejoint les grands déserts de l'histoire. Entre eux et nous, il y a l'histoire, les pestes de l'histoire politique, leur lente retombée. Oui, il s'agit bien de ça, de ce désert, de ces lieux irrémédiables de la répétition séculaire, celle de la même tentative de se voir, de s'entendre. Ici, tout est vanité et poursuite du vent. On ne peut jamais obliger un enfant à lire. L'enfant qui est puni parce qu'il lit des bandes dessinées cessera peut-être de lire celle-ci, mais il ne passera jamais sur ordre à d'autres lectures. Ou alors on l'endoctrine et ce résultat est le pire de tous. On ne pourra jamais faire voir à quelqu'un ce qu'il n'a pas vu lui-même, découvrir ce qu'il n'a pas découvert lui seul. Jamais, sans détruire sa vue, quel qu'en soit l'usage qu'il en fait, sa vue. Ce spectateur, je crois qu'il faut l'abandonner à lui-même. S'il doit changer, il changera, comme tout le monde, d'un coup ou lentement, à partir d'une phrase entendue dans la rue, d'un amour, d'une lecture, d'une rencontre, mais seul, dans un affrontement solitaire avec le changement.
Vous vous souvenez ? Ce mot, cette contrée, cette terre obscure. Vous disiez, il n'en reste rien que ce chemin-là, ce fleuve. Comment rejoindre notre amour ? Comment ? La lumière baisse derrière les arbres, il me semble. Il y a du vent. Il doit faire plus frais. Le jardin est plein d'oiseaux et le chat devient fou de faim. Les roses vont mourir très vite maintenant. Cela s'éteindra de l'autre côté des vitres. Le ciel, au-dessus du fleuve, deviendra noir. La nuit vient. Sur ce chat de lèpre et de faim, effrayant, sur ce jardin immobile autour de lui, la nuit vient aussi. Je la vois. Elle se répand sur vous, sur moi, sur le fleuve. Est-ce que vous voyez encore ? Ils disent que tout avait été construit sur la terre, que tout avait été habité, occupé par des peuples, des gouvernements, qu'il y avait des palais sur les rives des fleuves et, entre les palais, des fourrés d'orties, de ronces, et des nuées d'enfants courants, des femmes maigres, qu'il y avait des îles, des temples, qu'il y avait une forêt. Je ne sais rien des généralités des peuples du monde. Aucune d'entre elles ne me tiendra lieu de vous, de cette préférence que je vous porte. Aucune.
Pour beaucoup de gens, la véritable perte du sens politique, c'est de rejoindre une formation de parti, subir sa règle, sa loi. Pour beaucoup de gens aussi, quand ils parlent d'apolitisme, ils parlent avant tout d'une perte ou d'un manque idéologique. Je ne sais pas pour vous ce que vous pensez. Pour moi, la perte politique, c'est avant tout la perte de soi, la perte de sa colère autant que celle de sa douceur, la perte de sa haine, de sa faculté de haine autant que celle de sa faculté d'aimer, la perte de son imprudence autant que celle de sa modération, la perte d'un excès autant que la perte d'une mesure, la perte de la folie, de sa naïveté, la perte de son courage comme celle de sa lâcheté, que celle de son épouvante devant toute chose autant que celle de sa confiance, la perte de ses pleurs comme celle de sa joie. C'est ce que je pense, moi.
Il est toujours là en moi, en tout cas, ce texte-là. Je l'ai donné en dernier. Je pensais qu'il n'était pas possible de le rédiger, de l'énoncer. Et finalement, il fallait le faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire très simplement. N'est-ce pas? Par accumulation, si vous voulez. Et de termes, de mots. Mais c'est un des textes que je revendique le plus.
C'est curieux, cette apparence que prend le fleuve quelquefois dans l'éclairement de la nuit, d'aller vers la mer très vite pour tout entier s'y fondre. Mais qui êtes-vous? Qui? Comment cela se ferait-il? Comment cela se serait-il fait? À Londres, au cours de cette peste, vous croyez? Ou de cette guerre? Dans ce camp de l'Est allemand? Dans celui de Sibérie? Ou dans ces îles? Ici? Ici, vous croyez? Non? Moi, je ne sais plus. Je n'ai connaissance seulement que de cet amour que j'ai pour vous. Entier, terrible. Et que vous n'êtes pas là pour m'en délivrer. Jamais, jamais je ne vous sépare de notre amour, de votre histoire. On a tué ici. Vous le saviez? Tué. Oui. Presque chaque jour. Pendant 1000 ans, 1000 et 1000 ans. Oui, une fois, 1000 fois, 100 000. Le fleuve ensanglanté. On a mis en sang, on a enfermé, on a blessé. 1000 ans. C'est ensuite, oui, après, que ça s'est produit. Très, très longtemps, rien. Et puis, une fois, vos yeux sur moi, D'abord le bleu liquide et vide de vos yeux. Et puis vous m'avez vu. Autour de ce chat maigre et fou, la nuit est venue maintenant. Autour de moi, votre forme. On dit que c'est dans ces crématoires, vous savez, vers Cracovie, que votre corps aurait été séparé du mien. Comme si cela était possible. On dit n'importe quoi. On ne sait rien.
Lorsque la farce finira, on verra l'homme fabriqué avec de la peur, l'homme à la tête vide, celui de Kaboul et de Prague. Ils l'ont obtenu. C'est l'homme qui a peur. Plus qu'en Chine, il a peur. Plus que dans la forêt vierge ou sur la mer démontée. Cet homme est le soldat le plus rentable du monde. Il est entièrement à la merci de celui qui provoque sa peur. On se demande pourquoi. Pourquoi vouloir le tout de l'homme, le tout du monde ? On ne voit pas. On ne voit pas où ils veulent en venir, ce que leur rapporterait l'hégémonie de l'Europe. On a le sentiment d'être devant un malade sous calmant. Le calmant, leur Valium, leur Largactyl, étant ici le continent USA. La peur des USA. Cette peur est différente de celle qu'ils font régner. C'est celle de ne pas arriver à régner sur le tout du monde saigné à blanc, une Pologne généralisée. Ils ont peur de ne pas faire assez peur. Mais ici, devant ce continent océanique, ils sont impuissants à faire régner la peur qu'ils répandent. Et là, leur peur, en sens inverse d'être tués, c'est de ne pas pouvoir tuer. Ils sont devant les USA comme l'Allemagne hitlérienne devant leur propre pays en 1941. Mais ici, ils ne passent pas du tout. Il ne s'agit pas d'une défaite, mais d'une impossibilité géographique, infranchissable. Ils sont donc face à la configuration terrestre de leur douleur. Leur seule douleur, peut-être, celle de ne pas anéantir.
Un jour, c'était sur les côtes du Maroc, il y a 150 ans. Des milliers d'antilopes se sont jetées ensemble dans la mer. Elles se sont poussées les unes les autres, et elles se sont noyées. Elles venaient de toute l'Afrique, des forêts, des savanes, des montagnes. Elles se sont rassemblées au lieu dit, le jour dit, et elles se sont données la mort. Comme elles venaient de points qui étaient à des distances différentes du lieu de rassemblement, il était évident qu'elles n'étaient pas toutes parties le même jour. Leur départ avait dû être différent. Pour les unes, le voyage avait dû durer quelques jours ou quelques semaines, pour d'autres, des mois. Celle du Mozambique partait, mettons, au dernier croissant d'avril, celle de Guinée à la pleine lune de juin. L'injonction viscérale et divine qui leur dictait cette échéance était donc très précise quant au jour et à l'heure de leur départ. Chacune d'entre elles, dans le temps juste, à l'heure dite, s'est mise en route dans la direction donnée, et cela, apparemment, selon une décision qui ne devait relever d'aucun signal extérieur, mais au contraire, à s'y méprendre d'une volonté individuelle. La décision étant ici la soumission à l'inconnu de la loi, mais aussi réfléchie que le choix de la savane pour y jouer. Elles ne sont pas migratrices, les antilopes. Leur espèce n'est pas migratrice comme celle des cigognes, des oies sauvages ou des hirondelles. Elles n'avaient aucune habitude de quitter leur forêt. Elles l'ont quittée. Il s'agirait là pour leur espèce d'un ordre unique, peut-être, ou d'injonction au rythme séculaire ou même millénaire dont les hommes ignoreraient l'existence. On ne sait pas, bien sûr. Elles sont donc sorties de la forêt pour partir dans la direction de la mort. Pas toutes celles de l'Afrique, quelques milliers seulement. Donc certaines seulement sont parties selon la loi désignée. C'est une nuance peut-être la plus terrifiante. Certaines seulement. Cette logique d'éternité de l'espèce, cette règle impénétrable, enfouie, engloutie dans l'espèce, est aussi convaincante que l'ineptie grandiose, incommensurable de la vie.
Écoutez, j'étais jeune encore. C'était ici, à la campagne. C'était en juin ou juillet, il me semble. C'était la pleine lune. C'était tard le soir, après le dîner. D était dans le jardin. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait me montrer ce qu'il en devenait de la blancheur des fleurs blanches à la pleine lune, par temps clair. Il ne savait pas si je l'avais déjà remarqué. En fait, non. Jamais. À l'emplacement des massifs de marguerites et des roses blanches, il y avait de la neige. Mais si éclatante, si blanche, qu'elle faisait s'obscurcir tout le jardin. Les autres fleurs, les arbres, les roses rouges en étaient devenues très sombres, presque disparues. Restait cette blancheur incompréhensible que je n'ai jamais oubliée. La nuit était si transparente que le ciel était bleu. On aurait pu lire dehors, tellement la clarté était intense. Enfant, à la pleine lune, on lisait la nuit sur la véranda du bungalow, face à la forêt du Siam.
Un camion au bord de la mer.
Oui, c'est ça. Une brume légère partout répandue.
Oui, des terres.
Oui.
La route. Elle traverse un plateau nu.
Oui.
Et le camion passe.
Oui.
Hein?
C'est ça.
Il traverse tout. La mer. On l'entend. Le bruit de la mer. Loin. Forte.
Terrible, oui. Terrible. Le vent. Personne ne peut résister au vent.
Oui. Comme un captage, comme une fonction devenue folle, de captage du dehors, mais encore une fois, qui en passe par l'engouffrement dans l'ombre interne et si noire, qui meurt là, à la mémoire claire, et puis qui, un jour, sort là, devant nous, évidemment méconnaissable, et recouvre le papier blanc. On voit une fleur, un jour, une rose, on l'oublie, elle passe par la mort, on la revoit ensuite, on la reconnaît, et on l'appelle Anne-Marie Streeter. Le parcours de la rose depuis sa découverte jusqu'à ce nom, c'est la douleur, c'est les cris. Ce qui est douloureux, la douleur, le danger, c'est la mise en œuvre, la mise en page de cette douleur, c'est crever cette ombre noire afin qu'elle se répande sur le blanc du papier, mettre dehors ce qui est de nature intérieure. Les fous, je l'ai dit déjà, écrivent complètement. Leur mémoire est dehors. Le fabuleux cheminement à travers les vents et les marées, les forteresses, les océans du vécu et la page à la fin. C'est peut-être un manque à soi, un manque, un devoir élémentaire qu'on a vis-à-vis de soi, je le crois. On a une vie personnelle très pauvre, les écrivains, enfin je parle des gens qui écrivent vraiment. Cette dilapidation de soi, elle se fait dans un sens ou dans l'autre. Ils sont dans un manque total de vie personnelle, je ne connais personne qui ait moins de vie personnelle que moi. On me dit, tu fais des trucs, tu fais des films, vous faites ceci, vous faites cela. Ça ne remplace jamais la vie personnelle. Mais cette absence, ou plutôt cette relégation de la vie personnelle, c'est aussi une passion.
Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout.
Écoutez. Le chat, il crie. La faim et le vent qui le dévorent dans le jardin noir. Écoutez. À travers les larmes, le chat. Dans le vent et la faim, il crie. Dans la caverne noire. Écoutez. Ces cris, on dirait des plaintes, comme s'il disait « Écoutez, quoi ? Que dirait-il ? Quel mot ? Quelle désignation insensée ? Inepte ?
Naufle-le-Château, le 3 juillet 1979. Je relis vos lettres, je les garde, je ne fais rien. Je traîne toutes les nuits dans les cafés des Yvelines ou chez des gens. Je bois. J'ai accepté de faire un métrage de 30 minutes fin juillet. Cela pour écrire. Je vous avais promis de vous envoyer le Navier Night et la vraie version de Vera Baxter. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas comment passe le temps. Je ne fais rien. Il faut que j'arrive à réunir ces textes, ces arrêts, les mains négatives, avec cet autre texte sans titre encore qu'on me commande pour la fin juillet. J'ai envie que vous lisiez ce que je fais, de vous donner à vous des écrits frais, nouveaux, de frais désespoirs, ceux de ma vie de maintenant. Le reste, les choses qui traînent dans les armoires bleues de ma chambre, de toute façon, elles seront publiées un jour, soit après ma mort, soit avant, si une fois de nouveau je manque d'argent. Il y a en ce moment dans le jardin 90 000 roses et ça me tue. Je n'aime pas l'été. Je ne sais pas ce que vous allez faire à Rome. Vous me dites, allez souvent dans cette ville et ça m'intrigue. J'ai entendu dire que vous aviez une maison dans une de ces îles des côtes de la Charente. Je ferai une projection pour vous de Césarée et les mains négatives entre le 16 juillet et le 20 juillet au cinéma La Pagode. En août, j'irai dans cet appartement de Trouville, qui est au-dessus de la mer. Un jour, je vous enverrai une clé de cet appartement, et vous irez avec votre femme de maintenant. Cela aura lieu quand je serai à l'étranger, loin, afin que nous ayons l'assurance de ne pas nous rencontrer. Vous verrez, c'est un appartement suspendu au-dessus de la mer. Quand il y a des tempêtes, le bruit de la mer entre dans les chambres, dans le sommeil. J'espère chaque fois y rester longtemps, au moins jusqu'à l'hiver, pour écrire toujours. Toujours ça. Tout le temps. Si je n'y arrive pas, je vous écrirai à vous des lettres, je vous les enverrai. 20 lettres. 100 lettres. Vous écrire pour moi, c'est écrire cela en raison de ce qui me lie à vous, à cet amour si violent. Je ne peux plus, et vous, vous le comprenez, écrire une histoire cohérente, la mener à bien, prétexter d'un sujet, le développer dans toutes ses conséquences, depuis les premières jusqu'aux dernières. Défini. Je ne sais pas comment vous l'exprimer clairement. Je peux vous dire seulement que pour en arriver à tenter, par exemple, de vous l'exprimer, je suis tenu d'en passer par une apparente fragmentation de l'écrit, des temps qui le structurent, et surtout de constamment désorienter la direction de ses composants. Par exemple, tout à coup, de passer à ceci.
Il est 3 heures de l'après-midi. Je suis dans cette grande salle où je me tiens l'été, avec cette forêt de roses de l'autre côté des vitres, et depuis 3 jours ce chat, maigre, blanc, qui vient me regarder de très près à travers les vitres, les yeux dans les yeux. Il me fait peur. Il crie, il est perdu et il veut rester à un endroit, ici peut-être. Et moi non, je ne veux plus de chat ici. Depuis la mort de Ramona la chatte noire, mon amie, ma sœur, mon amour que j'ai pleuré pendant des jours lorsqu'elle a été écrasée par une auto identique à la mienne, le bruit a couru, parce que c'était un vendredi soir, qu'elle avait cru que je ne viendrais pas ce soir-là, comme je faisais d'habitude chaque week-end. Enterrée dans une forêt de chênes et de châtaigniers qui portent maintenant son nom. C'est par cet autre chat, blanc, maigre et fou, dérangeant, considérable. Par ce jardin de roses immobile autour de ce chat. Par cet étang sali par les enfants du village et qui cette année s'est rempli de grenouilles et de crapauds que ces enfants essaient de tuer à coups de pierre. Que je devrais en passer aussi pour vous atteindre et nous faire approcher ensemble de la totalité du monde et de notre commun désespoir. J'oublie, le jardin est plein d'oiseaux et le chat blanc devient fou de faim. Et moi, je ne lui donnerai rien, je n'en veux pas, rien à faire.
Je vais peut-être faire ça, vous écrire des lettres. Et vous, vous en feriez ce que je voudrais bien que vous en fassiez, c'est-à-dire ce que vous voulez. Quand j'écris, je ne meurs pas. Qui mourrait quand j'écris? Il faudrait que je ne passe plus mes nuits à boire, que je me couche tôt pour pouvoir vous écrire des lettres très longues afin de ne pas mourir. J'aurais pu vous parler aussi de cette promenade du cimetière de Barneville, des enfants, des tombes d'enfants dans le soleil, de Julien qui a pris peur et s'est sauvé, et d'elle, l'autre enfant, et du retour le long de la mer, de la beauté de la mer, de sa douceur. Elle était comme recouverte du poids de cette douceur. Avec la nuit qui tombait, je me suis demandé si j'écrirais encore. C'était le début de l'été. Les lettres que je pourrais vous écrire m'apparaissent comme des accidents de lumière dans l'obscurité du temps, des trous dans l'épaisseur et la lourdeur des jours, et que l'obscurité recouvre cependant qu'il en reste toujours quelque chose, une ombre sur la douceur de la mer, le pincement au cœur, la douleur d'avoir oublié les tombes d'enfants dans le soleil, la petite fille, celle qui lisait l'écriture sur les tombes d'enfants le 29 juin 1979, À Barneville, la Bertrand. Cécile, elle s'appelait. Toujours en allée dans une réflexion essentielle. Elle ne voulait pas quitter le cimetière. Toute seule, lisait avec application l'histoire des enfants morts.
Ma mère, dit Aurélia, elle s'appelait Aurélia Steiner. Aurélia met sa tête contre le ventre du chat. Le ventre est chaud. Il contient le ronronnement du chat plus vaste que le chat. Un continent enfoui. Steiner Aurélia, dit Aurélia. Comme moi.
À l'origine d'Aurélia Steiner, il y a une lettre adressée à quelqu'un que je ne connais pas. Nous parlons au téléphone. Je connais son nom. Je l'ai vu une fois, il y a 13 ans. J'ai oublié son visage. Je connais sa voix. J'ai écrit cette lettre et puis je ne l'ai pas envoyée. Avec cette lettre, tout à coup, j'ai recommencé à écrire. J'allais passer outre au principal. Oubliez de dire ça.
Vous m'aviez dit, cette ville engloutie, c'est notre terre obscure. Il n'en reste rien que ce chemin de l'eau qui l'a traversé. Ce fleuve. Vous avez oublié? Vous avez tout oublié? Si fraîche, vous disiez. Vous disiez cette deuxième ville. Vous disiez des histoires traînent le long de ce fleuve, de cette longueur fluviale si douce qu'elle appelle à se coucher contre et à partir avec elle. Oui, vous avez tout oublié. Un brouillard monte dans le jardin. Il se répand sur le fleuve. Je le vois. Il se répand sur vous, sur moi. Le chat ne crie plus. Il est mort. Le froid et la faim. Et moi, cela m'est égal. Je ne vous sépare pas de votre corps. Je ne vous sépare pas de moi. Comment faire pour que nous ayons vécu cet amour? Comment faire pour que cet amour ait été vécu? C'est curieux. C'est par ce chat maigre et fou, maintenant mort, par ce jardin immobile autour de lui, que je vous atteins. Par cette blancheur blanche, ce brouillard infini, que j'atteins votre corps. Je m'appelle Aurélia Steiner. Je vis à Melbourne où mes parents sont professeurs. J'ai 18 ans. J'écris.
Vous voyez, je ne cherche nullement à approfondir le sens du texte que, quand je le lis, non, pas du tout, rien de pareil. Ce que je cherche, c'est le premier état de ce texte, comme on cherche à se souvenir d'un événement lointain, non vécu, mais entendu dire. Le sens viendra après, Il n'a pas besoin de moi. La voix de la lecture, à elle seule, le donnera sans intervention de ma part. La lecture se propose à voix haute de la même façon qu'elle s'est proposée pour vous seul, la première fois, sans voix. Cette lenteur, cette indiscipline de la ponctuation, c'est comme si je déshabillais les mots, les uns après les autres, et que je découvre ce qui était au-dessous, le mot isolé, méconnaissable, dénué de toute parenté, de toute identité, abandonné. Parfois, c'est la place d'une phrase à venir qui se propose, parfois rien. À peine une place, une forme, mais ouverte à prendre. Mais tout doit être lu. La place vide aussi, je veux dire. Tout doit être retrouvé. On s'aperçoit quand on dit, quand on écoute, combien les mots sont friables et peuvent tomber en poussière.
Aurélien, je la vois quand même très très jeune. Dans une fraîcheur... Comment l'appeler? Comment la dire? Terrifiante et adorable en même temps. Mais comme immortalisée par sa race. Dans les Aurélia Steiner, j'ai l'impression que cette petite fille de 18 ans, elle parle pour moi. Elle parle à ma place. C'est comme si j'étais remplacée. Et ça, c'est une merveille, quand on peut le vivre.
Ma mère, elle était la reine des Juifs, dit l'enfant. Reine de Jérusalem et de la Samarie. Puis, des Blancs sont venus. Ils l'ont emmenée.
Est-ce que tu ne pourrais pas dire aussi d'Aurélia Steiner comme du vice-consul que son mal, c'est l'intelligence?
Oui, je le pourrais. Tu ne pourrais pas le dire?
Si.
Mais une intelligence sans correctif.
Une intelligence folle, littéralement.
Déchaînée.
Elle est folle aussi, Aurélia Steiner, d'une certaine façon.
Oui, elle est partie dans la folie, comme Abraham. C'est quelqu'un qui est parti. Elle ne s'arrêtera pas, Aurélia Steiner.
Est-ce que c'est la même, celle de Paris, de Melbourne et de Vancouver?
Oui, c'est la même. En même temps. À tous les âges. Je peux te montrer sa photographie, enfant. Je l'ai trouvée à Naufles, Aurélia. Elle a 7 ans. Elle n'est pas dans le film, mais elle a quand même été filmée. On n'a pas su la filmer avec Pierre Lhomme. On n'a pas su comment attraper sa sauvagerie. Il n'y a pas de différence entre les yeux d'Aurélia et la mer, entre la percée de son regard et le fond des temps.
Aurélia, enfant, mon enfant, le bal de Estalla est de nouveau béant. C'est Aurélia qui le regarde. Aurélia est sortie du corps massacré de Lolvestein. Aurélia m'a remplacée, c'est fait. Les sables de Estalla, ceux de la déambulation des fous, la mer aussi, tout est désert. Le grand balcon du casino de Estalla, face au couchant, est vide. On entend le bruissement très doux de la mer d'hiver. Parfois passe Aurélia. Elle regarde les sables et la mer. Oui, ses yeux sont bleus. Et avec le soir, ils deviennent obscurité limpide et sans fond. Ses cheveux sont noirs. Elle chante. C'est elle qui maintenant chante les airs du bal de Estalla. Elle les chante comme chant juif. Oui, elle passe sur la plage les jours d'orage. Elle écoute le vent, l'égarement fantastique de la mer, tout entière tournée vers le gouffre vide de la terre. Instruite de la douleur, Aurélia, et de la joie, regarde.
Le 25 août 1979, je trouve écrit dans mon agenda « La mer est grise, noire à l'horizon, plate, lourde, de la densité du fer. Voiliers immobiles, scellés à la mer de fer. Silhouette des promeneurs de la plage de ce noir de l'horizon, puis du vent. Dans l'après-midi, tout se défait, bleuit, revient au mouvement. » C'est quelques jours après que j'ai commencé Aurélia Steiner, mais après avoir envoyé à quelqu'un la phrase sur la mer, écrite sur une carte postale bleue.
Il pleut sur la mer, sur les forêts, les plages vides. Il n'y a pas les parasols, même fermés de l'été. Le seul mouvement sur les hectares de sable, les colonies de vacances. Cette année, ils sont très petits, il me semble. De temps en temps, les moniteurs les lâchent sur la plage, cela afin de ne pas devenir fous. Ils arrivent en criant, ils traversent la pluie, ils courent le long de la mer, ils hurlent de joie, ils se battent avec le sable mouillé. Au bout d'une heure, ils sont inutilisables, alors on les rentre. On les fait chanter, les lauriers sont coupés. Sauf un. Un qui regarde. Tu ne cours pas ?
Il dit non.
Bon. Il regarde les autres chanter. On lui demande : tu ne chantes pas ?
Il dit non.
Puis il se tait. Il pleure. On lui demande « Pourquoi tu pleures ?»
Il dit que s'il le disait, on ne comprendrait pas ce qu'il dirait. Que ce n'est pas la peine qu'il le dise.
La première génération, les grands-parents, a été gazée à Auschwitz. C'étaient les grands-parents d'Aurélia Steiner. Cette génération avait déjà des enfants quand elle a été exterminée. Dès le début de la guerre, et même dans les années qui l'ont précédée, beaucoup de ces enfants ont été envoyés et confiés à des parents qui habitaient loin de l'Europe. Les tantes et les oncles des parents d'Aurélia Steiner. La dernière, Aurélia, est donc née à l'étranger, à Melbourne et à Vancouver. Je ne crois pas qu'elle soit jamais revenue en Europe. Aurélia Steiner, comme tous les Juifs d'Israël ou d'Europe, à travers ses parents et ses grands-parents, est donc une survivante des camps, un oubli, un accident dans la généralisation de la mort. Il faut dire aussi qu'une cinquantaine d'enfants juifs sont nés et ont grandi à Auschwitz, cachés sous les bas-fonds. On en a retrouvé quelques-uns, Ceux qui ont survécu ont été envoyés dans un hôpital psychiatrique, en Angleterre. Aucun d'eux ne connaissait l'emploi de la première personne.